Volvé, bonjour Raphaël.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Le Salon de l'agriculture à Paris, meilleur moyen de connaître les métiers agricoles, les contraintes, mais aussi leur immense importance. Les agriculteurs veulent réconcilier les mondes ruraux et citadins. Tous les moyens sont bons, illustration dès le début de ce journal. Nous évoquerons aussi l'Ukraine, la guerre, jour 4. L'armée russe continue de progresser dans le pays et les Occidentaux frappent très fort en excluant des banques russes du système SWIFT. Comment réagit la Russie? Nous serons en ligne avec Moscou et puis nous en parlerons également avec vos invités à 8h20.
Eric. Oui, à partir de 8h20, la journaliste Isabelle Lasserre, spécialiste de la diplomatie au Figaro, ancienne correspondante à Moscou. Et puis nous recevrons aussi le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Et puis dans 20 minutes, notre invité, on va parler de la guerre, mais d'une autre guerre, celle d'Azincourt. Azincourt par temps de pluie, c'est le dernier roman de Jean Tellet.
France Inter.
La plus grande ferme de France a donc repris ses quartiers à Paris hier. Le Salon de l'agriculture officiellement ouvert jusqu'au 6 mars prochain. L'occasion de rencontrer nos agriculteurs, leurs produits, nos éleveurs et leurs bêtes. Leur dire notre affection et notre reconnaissance. Parfois même découvrir la réalité de leur métier, parfois méconnu dans les grandes villes. Outre la superbe vitrine du Salon de la Porte de Versailles, les agriculteurs multiplient également les initiatives sur les réseaux sociaux. Kathleen Comte, depuis vendredi, le collectif Ces mains qui vous nourrissent proposent aux acteurs du monde agricole de partager leur quotidien sur Instagram.
Téléphone dans les mains, Jérôme Regnault lance l'application Instagram.
Je suis sur la page du collectif, donc ça tombe bien.
L'agriculteur de 47 ans vit à plaisir dans les Yvelines. Il cherche les premières photos publiées sur le réseau social.
Donc vous voyez là, c'est un éleveur en train de distribuer le foin le matin, sûrement après les rations à ses animaux. Là, c'est quelqu'un qui charge un camion de foin. Et derrière, j'espère que ça va suivre, que les professionnels vont se prendre au jeu et que les Français vont être très intéressés de suivre ces symboles.
Parce que c'est bien ça le but. Le porte-parole du collectif veut avant tout créer du lien avec les Français.
Vous avez des inquiétudes, on va en parler. On va vous dire sereinement, concrètement, quel est notre quotidien et comment on travaille. Trop longtemps, on s'est plongé dans notre métier, dans notre technique, en disant « mais laissez-nous donc, on a raison ». Et ça, c'est une faute. On a un métier très particulier qui touche à la terre. C'est normal qu'on vienne aujourd'hui à la rencontre des Français, qu'on se parle, c'est pas rendre des comptes, c'est simplement se dire, comprenons-nous, on va échanger autour d'une vérité. Parce que les professionnels du sujet sont les agriculteurs. Donc ils doivent pas être les seuls à traiter des sujets, mais par contre on doit pas traiter tous ces sujets sans eux.
Toutes les photos des agriculteurs qui participent à l'initiative sont à retrouver sur Instagram, sur la page Ces mains qui vous nourrissent ou avec le hashtag Ici la Terre.
Kathleen Comte, et les réseaux sociaux c'est bien, mais ça ne remplace pas l'humain. C'est encore mieux d'aller directement au Salon de l'agriculture comme le Premier ministre hier, Jean Castex, aperçu avec un agneau du Quercy dans les bras, il a déambulé entre les stands à la place du président. Emmanuel Macron très occupé par la crise ukrainienne.
Quatrième jour de guerre effectivement en Ukraine et l'armée russe qui progresse encore.
Elle dit être entrée dans la deuxième ville du pays, Kharkiv, dans le nord-est et encercler deux autres grandes localités du sud de l'Ukraine depuis hier. La Russie élargit son offensive et le nombre de réfugiés augmente d'heure en heure. Au moins 116 000 personnes ont fui vers des pays voisins selon les Nations Unies. Les mouvements de population forcés s'accélèrent car les files d'attente sont de plus en plus grandes aux postes frontières avec la Moldavie, la Pologne et la Roumanie. Mathilde Dehimi, une fois la frontière franchie, beaucoup d'Ukrainiens montent dans des trains. Vous les avez rencontrés à la gare de Suchava, côté roumain, à 50 km de la frontière.
Passeport bleu à la main, les Ukrainiens font la queue pour prendre un billet pour Bucarest à 6h30 de train. Sur le quai, Vlad, 22 ans, a du mal à lire son numéro de wagon en alphabet latin.
Je me sens en sécurité depuis que j'ai passé la frontière, mais je ne me sens pas bien. C'est un sentiment partagé car j'ai laissé ma famille là-bas. Ils habitent du côté d'Odessa. Là où ils se trouvent, il n'y a pas eu de combat, mais ils sont loin de la ville. Là où il y a des problèmes, c'est dans les grandes villes, pas encore dans les alentours.
Vlad est l'un des derniers hommes à avoir traversé avant l'ordre de mobilisation générale jeudi. Et quand on lui demande ce qu'il souhaite...
La paix et le calme pour l'Ukraine.
Vlad s'engouffre dans le wagon. Il va tenter de reprendre ses études à Bucarest. Ils sont peu nombreux à rester ici, constate Enka, une étudiante venue les aider.
Pour l'instant, on n'a que trois personnes qui restent pour deux ou trois semaines. Mais la majorité partent loin, en Italie, en Espagne, à Istanbul. N'importe où, mais pas ici.
La frontière est de plus en plus saturée, faisant craindre un manque rapide de transport et d'hébergement pour les Ukrainiens en exode.
Mathilde Dehimi. Et cet après-midi, les ministres européens de l'Intérieur tentent d'anticiper une possible crise migratoire en Europe. Ils ont rendez-vous à Bruxelles en début d'après-midi. L'Union européenne, qui avec ses partenaires du G7 s'apprête à sortir l'artillerie lourde en matière de sanctions après quelques hésitations, notamment côté allemand, les Occidentaux vont exclure du réseau bancaire SWIFT plusieurs établissements russes. SWIFT, c'est un système incontournable de la finance, un moyen rapide de faire virements et paiements internationaux. Appelons tout de suite Moscou, la capitale russe, où se trouve Jean-Didier Revoin. Bonjour Jean-Didier.
Bonjour.
Alors, comment réagissent les autorités russes ?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réaction officielle des autorités, j'en ai pas vu, mais un parlementaire s'est exprimé, Oleg Matveïtchev, hein, il relativise la chose, il a fait savoir que l'Iran était déconnecté du système SWIFT depuis des années et que le pays ne s'était pas écroulé pour autant. Il a aussi renchéri sur le fait que la société qui opère le système SWIFT gagne des milliards en prélevant une commission sur chaque transaction et il se demande si elle est prête à perdre des milliards au vu de l'importance de la Russie dans le système. Enfin, depuis l'annexion de la Crimée, les Russes ont développé un équivalent à SWIFT qui s'appelle MIR, mais à l'heure actuelle, il ne fonctionne que dans une vingtaine de pays.
Et la Russie peut-elle riposter à ces sanctions particulièrement lourdes ?
Alors oui, du moins en théorie, hein, toujours d'après ce député, les livraisons énergétiques de la Russie, essentiellement du gaz et du pétrole, seront interrompues au moment même où SWIFT sera suspendu. Les clients de la Russie qui utilisent ce système n'auront plus les moyens de procéder aux paiements nécessaires pour s'acquitter du prix de leur livraison. Mais reste à savoir concrètement comment cela va se passer.
Jean-Didier Revoin, correspondant de France Inter à Moscou, et c'est déjà le troisième train de sanctions occidentales depuis le début de la guerre. Deux premiers effets, notamment sur un célèbre oligarque russe, Roman Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea en Angleterre, s'éloigne de ses fonctions de décisionnaire. La gestion du club est désormais confiée à la fondation caritative de Chelsea. Laura Kalmus, c'est un séisme pour les Blues et le monde du football.
Il se dit vouloir agir dans l'intérêt du club de Chelsea qui lui appartient depuis 2003. Alors que les sanctions visant les intérêts russes se multiplient, Roman Abramovitch a décidé de ne plus s'impliquer de façon régulière et de ne plus prendre de décisions majeures pour le club. Selon le Télégraphe, il restera toutefois propriétaire et ne cherche pas à vendre Chelsea. À la tête d'une fortune estimée à près de 8 milliards d'euros, Roman Abramovitch, proche de Vladimir Poutine, fait partie des oligarques sur la sellette. La guerre en Ukraine a déjà poussé l'UEFA à déplacer la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg à Paris, une décision saluée vendredi par l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel.
C'est la pire des raisons pour changer le lieu de la finale. La situation de manière générale est horrible. Ça a perturbé notre façon de penser et ça a un impact sur notre concentration.
Mais l'annonce de Roman Abramovitch laisse de nombreuses questions en suspens. Si le club est désormais géré par une fondation caritative, comment sera-t-il financé ? Sera-t-il affecté si les avoirs du milliardaire venaient à être gelés ? Des incertitudes alors que la finale de la Coupe de la Ligue a lieu cet après-midi entre Chelsea et Liverpool au stade de Wembley. Londres, Laura Kalmus, France Inter.
Donald Trump s'exprime sur le conflit en Ukraine lors d'un rassemblement de conservateurs en Floride. Cette nuit, l'ex-président américain condamne l'invasion du pays, mais qualifie également Vladimir Poutine d'homme intelligent. Un mot aussi pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que Donald Trump qualifie de courageux.
On termine avec les préparatifs du procès de l'attentat de Nice. C'est un procès qui va débuter en septembre prochain.
L'attaque terroriste au camion du 14 juillet 2016, 86 morts, sera jugée à Paris. Mais beaucoup de victimes originaires de Nice ne pourront pas suivre toutes les audiences. Charlotte Piret, l'institution judiciaire prévoit toutefois des aménagements.
Le principe d'une salle de retransmission du procès à Nice a été acté par l'institution judiciaire, notamment car plus de la moitié des près de 900 personnes constituées partie civile à ce stade vivent dans les Alpes-Maritimes. Cela implique donc, et c'est le travail mené actuellement, de trouver une salle suffisamment grande, probablement de dimensions similaires à la salle d'audience principale à Paris, celle où se déroule en ce moment le procès des attentats du 13 novembre et dont la capacité d'accueil dépasse les 500 places. L'autre sujet de réflexion pour ce procès de l'attentat du 14 juillet à Nice, c'est la web radio, système de diffusion des débats pour les parties civiles identifiées. Il a été mis en place pour la première fois pour le procès des attentats du 13 novembre, là encore, mais sans diffusion à l'étranger, ni traduction possible. Or, pour le procès de Nice, plus d'une trentaine de nationalités sont représentées parmi les victimes. Des victimes qu'il faudra aussi accompagner psychologiquement à Paris et à Nice, du coup. Seul le dispositif de sécurité, lui, devrait être un peu moins lourd que pour le procès du 13 novembre, puisque deux des accusés uniquement comparaissent détenus et sans faire l'objet d'une surveillance particulière.
Charlotte Piret du service police-justice de France Inter.
C'était le journal de Raphaël Delvolvé. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec quasiment du plein soleil, Jean-Michel Gonaski.
Oui, donc du beau fixe finalement sur 80% du territoire, mais des nuages quand même plus denses vont s'attaquer à la façade atlantique, de la Bretagne aux Pyrénées, ciel également plus mitigé, du sud des Alpes à la Côte d'Azur, puis en soirée sur le Languedoc et le Roussillon. Avec cet après-midi, les températures de l'ordre de 17 degrés sur la Gironde, il fera 15 à 16 du sud de la Garonne à la basse vallée du Rhône, 13 à 14 de la Côte d'Azur à la Corse et 10 à 13 degrés sur les deux tiers nord du pays, avec par exemple 10 prévus à Metz, 11 à Lille, à Alençon et Paris, 12 à Lyon, 13 à Brest ainsi qu'à Nantes et à Bourges.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.